Je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles ce temps-ci, mais j'ai au moins une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. Une très bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. On peut faire mieux que ça. À chaque fois ce matin que je dis « Jésus est ressuscité », je veux que ça soit comme si notre meilleure équipe, notre équipe préférée vient de gagner le championnat. Quand je dis « Jésus est ressuscité », je veux comme si les Canadiens de Montréal ont compté un but, ou comme moi je fais quand les Steelers de Pittsburgh, ils font un toucher, je sors mon terrible towel ici, et c'est la joie spontanée. Yes! Les Steelers ont fait un toucher! Yeah! Chaque fois que je dis « Jésus est ressuscité », moi, je vais avoir une réaction de joie spontanée parce qu'il n'y a pas une meilleure nouvelle que la nouvelle que Jésus est ressuscité. Alors, on va faire un test. Tout le monde debout. Comment? Dans l'arrière ici, en avant, là, on va faire un test. Attendez, là. Jésus est ressuscité! Come on! Yeah! Woo-hoo! Les meilleures nouvelles! Victorieux! On est sur l'équipe gagnante! Yeah! Come on! C'est le dimanche de Pâques! Jésus est ressuscité! Pouvez-vous asseoir? Alors, voici quelques mots sur la résurrection de Jésus ce matin de Pâques pour vous expliquer pourquoi je crois à la résurrection de Jésus et pourquoi que cette croyance est d'une importance vitale pour chacun de nous. Non seulement aujourd'hui, le jour de Pâques, mais à chaque dimanche. Moi, je suis de l'avis de l'écrivain N.T. Wright qui a dit ceci, les paroles sont sur l'écran. La célébration de la résurrection de Jésus ne devrait pas être réduite à une journée, que nous appelons Pâques, où les chrétiens partent en vacances. Ça devrait être un festival hebdomadaire, avec du champagne servi après la prière du matin, avec beaucoup d'alléluia, des chants, des hymnes spectaculaires. Car laissez tomber la résurrection et vous n'avez pas de Nouveau Testament, pas de christianisme. Ceci est notre plus grande source de joie et de célébration. Champagne après la réunion de dimanche n'est pas une pratique commune des églises chrétiennes, malheureusement. Mais nous comprenons ce qu'il veut dire. La champagne représente la célébration et la victoire. Nous ouvrons une bouteille de champagne pour souligner un moment spécial. Une journée ou un événement marquant, un mariage, un anniversaire, une naissance. Comme moi, je vais faire le mois de mai. En deux mois, on reçoit notre deuxième petit-fils au monde. Le mois de mai, on va ouvrir une bouteille de champagne. Un autre le compte sur la terre. Pas bonne nouvelle pour tout le monde, mais bonne nouvelle pour moi. Et nous croyons comme M. Wright, qu'il n'y a pas un événement plus marquant, important ou spécial dans l'histoire du monde que la résurrection de Jésus-Christ. Elle est absolument et sans aucun doute l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité et surtout le plus important pour l'Église chrétienne. La résurrection est plus importante que Noël, que la Pentecôte et que Vendredi Saint même. Le Nouveau Testament mentionne la résurrection plus souvent que la crucifixion, car sans la résurrection, la crucifixion est la mort d'un autre faux messie parmi plusieurs, et Noël est une histoire mythique. C'est la résurrection qui est le sceau de crédibilité sur toutes ces histoires. Elle est la preuve que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre salut. Qui inclut notre liberté, notre délivrance, notre guérison, notre victoire, là. Grâce à la résurrection de Jésus, nous sommes libérés. Nous avons la liberté, nous avons la délivrance. Nous sommes libérés de nos addictions et de nos malédictions. Nous sommes libérés des mensonges de l'ennemi, libérés du malheur, libérés de la crainte, même la crainte de la mort. Jésus est ressuscité. Nous ne sommes plus prisonniers de notre passé, ni de nos péchés, ni nous ne sommes plus esclaves, victimes. Nous ne sommes plus le poids de l'ennemi, ni maudits, ni éloignés, ni orphelins, ni seuls. Jésus est mort et sa résurrection, c'est mon salut est scellé et mon avenir garanti parce que Jésus est ressuscité. Et comprenez, moi je ne crois pas à la résurrection de Jésus parce que ça me fait du bien de le croire, ou parce que je veux le croire, ou parce que mes parents l'ont cru, ou parce que ça me donne une autre raison pour manger un bon grand repas. Non, moi je crois à la résurrection parce que c'est vrai. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour croire à la résurrection de Jésus. Il y a des raisons historiques, apologétiques et logiques que j'enseigne à l'université, à l'ITF justement. Mais la raison numéro un que je crois à la résurrection, c'est vous. C'est vous. C'est nous. C'est l'Église. Vous êtes la plus grande raison pourquoi je ne crois pas que la résurrection était un coup monté ou une histoire fabriquée ou un complot pour séduire la masse. Pour moi, la plus grande preuve de la résurrection est le miracle et la merveille de l'Église. Et surtout son fondement et son explosion il y a 2000 ans. Comment expliquer le lancement de l'Église il y a 2000 ans et par la suite son avancement, ainsi que son existence et son impact encore aujourd'hui, sans que Jésus soit ressuscité? Quelque chose de phénoménal est arrivé il y a 2000 ans pour qu'un gang de disciples, confus, découragés, craintifs, cachés dans un coin, peur de la foule et des Romains, deviennent tout d'un coup des prédicateurs puissants, des écrivains, des missionnaires et des implanteurs d'Église. Des hommes et des femmes qui ont donné littéralement leur sang et leur vie pour leur témoignage de Jésus ressuscité. Comprenez, les premiers chrétiens prêchaient leur message dans un environnement très hostile. Il y avait des centaines d'ennemis de l'Église et des chrétiens qui auraient fait n'importe quoi pour réprouver leur message. Car faire preuve que Jésus n'était pas ressuscité aura mis fin au mouvement chrétien immédiatement, mais ils n'ont jamais réussi. Et sans que la résurrection soit vraie, les disciples n'avaient aucune raison valable pour fabriquer l'histoire de la résurrection. Car cette histoire leur a coûté cher. Leur message ne les a pas gagné la popularité, mais la persécution, la misère, l'isolation, l'expulsion, le tourment, le danger continuel. Pourquoi fabriquer une histoire qui ne te donne rien sauf la misère? Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient vu Jésus mort et par la suite vivant. Ils ont vécu quelque chose. Ils ont témoigné quelque chose. Ils ont passé des personnes confuses et craintives à des personnes convaincues et convaincantes. Et la seule explication, est ce qu'ils disaient était vrai. Jésus était mort, mais il a ressuscité. Et la vie commune dans les évangiles est que c'est Jésus lui-même, avec son corps. Jésus qui mange, qui marche, qui communique, qui cuisine un déjeuner sur le bord de la plage, qui pouvait prendre par la main, toucher son visage, voir ses cicatrices. Ce n'est pas une apparition de Jésus, ni une image de Jésus, ni l'esprit de Jésus, ni l'âme de Jésus, mais Jésus lui-même. Et tout d'un coup, sans aucune précédente, la doctrine de la résurrection du corps, celui de Jésus et des chrétiens, sans précédent, tout d'un coup, deviennent la doctrine centrale des croyants. La résurrection devient le sujet principal de leurs prédications, leur musique, leurs écrits, leur symbolisme, leurs apologies, leur théologie et leur credo. Avant, personne n'en parle. Après, tout le monde en parle. Et à partir du moment que Jésus est ressuscité, non seulement qu'ils croient et comprennent et communiquent la résurrection, mais tout d'un coup, le sabbat, le samedi, comme journée sacrée, est remplacé par le premier jour de la semaine, le dimanche. Après des siècles et des siècles d'avoir observé le samedi, Tout d'un coup, le samedi est remplacé par le dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Et cela est cru et pratiqué par des centaines de millions de personnes depuis jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre que les premiers croyants et témoins étaient majoritairement des Juifs, pour que les rites et les cérémonies sont sacrés et qui observent le sabbat le samedi depuis des siècles et des siècles. Mais tout d'un coup, ils changent un rituel ancré dans leur vie et leur histoire en impensable sans que quelque chose de phénoménal ait arrivé. Enlève la résurrection, il est difficile à expliquer ce qui a pris place et surtout comment que l'Église a non seulement débuté, mais prospéré et fleuri malgré l'opposition intense et la persécution sévère. C'est Tim Keller, pasteur, écrivain, pasteur défunt d'une église de plusieurs milliers à New York. Il a dit ceci, « Aucun groupe de Juifs n'avait jamais adoré un être humain comme Dieu. C'était blasphème absolu de proposer qu'un être humain doive être adoré. Pourtant, dès le lendemain, des centaines de Juifs ont commencé à adorer ce Jésus. Quelque chose d'extraordinaire est arrivé il y a 2000 ans pour lancer l'Église de Jésus-Christ, le mouvement des chrétiens, un réseau de personnes convaincues que Jésus est ressuscité et vivant et présent dans le monde par son esprit et qui se rassemblent les dimanches matins pour adorer ce même Jésus. Impensable chez les Juifs s'il était un simple homme. Mais là, après 3 jours, ils ont compris, Jésus n'est pas un simple homme, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Come on, une bonne main d'applaudissement. Jésus est le Seigneur. Quelque chose est arrivé. Et ce mouvement n'a jamais arrêté, ralenti ou freiné depuis. Et le plus surprenant de tout, et que ce phénomène de croissance et de multiplication prend place dans un contexte de persécution, résistance, ridicule, hostilité, menace et de violence même. C'est ce qu'il faut comprendre. Chaque victoire de l'Église après ça, chaque pas vers en avant, a été confronté soit par l'opposition, on lit dans le livre des Actes et l'histoire de l'Église, soit l'opposition, la moquerie, la persécution, des arrestations, des émeutes ou des menaces. Rien n'était facile pour l'Église qui communiquait le message de la résurrection. Mais malgré ça, l'Évangile est prêché, le nom de Jésus est glorifié et l'Église est multipliée, entièrement miraculeuse. Et le miracle continue aujourd'hui, ici au Québec, en 2024, chez nous-mêmes, avec 10 sites Nouvelle Vie, en 3 langues, avec 20 réunions à Nouvelle Vie, juste ce week-end. 4000 personnes se sont rassemblées le Vendredi Saint sur 2 sites à Longueuil, à Québec, pour adorer le Seigneur et célébrer la croix. Puis on a eu un message fantastique et exceptionnel de la part de Pasteur Ben sur la puissance du sang. Mais il y a quelque chose qui prend place ici au Québec. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Nous avons Nouvelle Vie. Nous avons Nueva Vida. Il y a quelques semaines, on a lancé New Life, Nouvelle Vie pour les Anglais avec plus que 500 personnes. Combien sait que les Anglais ont besoin de Jésus aussi? Il y a quelque chose qui prend place. Et la croissance et la multiplication que nous vivons, juste l'Église Nouvelle Vie, arrivent malgré le contexte anti-religieux de notre société. Nous vivons le miracle d'une Église qui fleurit malgré la culture laïque de notre province, malgré l'hostilité et l'indifférence des médias, les mensonges et les attaques de l'ennemi et les tentatives de rendre l'Église silencieuse ou obsolète. Moi, j'imagine que la croissance et l'avancement des églises chrétiennes comme Nouvelle Vie doit confondre les chroniqueurs, animateurs, professeurs, journalistes et analystes québécois qui dénigrent l'Église et la rejettent comme une entité datée, insignifiante et qui annonce sa mort depuis des années maintenant. Mais la bonne nouvelle est que l'Église de Christ n'est pas branchée sur un respirateur artificiel. Elle ne respire pas son dernier souffle. Elle est vivante, forte et avance avec le souffle de Dieu, le Pneuma qui remplit ses voiles et ses poumons et va continuer. Yeah, come on! Come on! « Et l'Église va continuer à confondre ses ennemis et ses détracteurs. L'Évangile sera validé et le Seigneur ressuscité, glorifié, parce que Jésus est ressuscité. Come on! Non seulement ici, mais partout dans le monde. L'Église de ma fille Ashley et son mari James, qui demeure à Saint-Pétersbourg, à Tampa, en Floride. Leur église, c'est Grace Family Church. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ce matin? Ils ont loué le stade des Buccaneers de Tampa pour leur union de Pâques. Une seule église avec 8 sites vont remplir le stade de football ce matin pour célébrer la résurrection de Jésus et témoigner que non seulement que Jésus est vivant, son église est vivante aussi. Come on, une bonne main d'applaudissement. L'église n'est pas morte. Non. J'ai l'impression qu'en même temps qu'il y a une descente rapide vers la dégradation et la décadence aujourd'hui, accéléré depuis la fin de la pandémie, que nous vivons un élan spirituel et que c'est rien que le début. Comme si le plus que la noirceur intensifiée, le plus que la lumière brille. C'est l'impression que j'ai. Comme prophétisé par Isaïe, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, qui est traduit « deep darkness » en anglais. L'obscurité profonde couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ou encore, comme le peuple de Dieu en Égypte, il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. On ne se voyait pas les uns les autres, mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Qui veut dire quoi? Quand Dieu veut briller, il va briller. Et il brille aujourd'hui. Come on, il brille chez nous et à travers de nous et en nous. Le Seigneur brille. Peu importe. La noirceur partout qui est intensifiée, mais la lumière brille. Quand Dieu veut briller, il va briller. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'alliance, incontournable et inébranlable. J'aime la manière qui s'est exprimée en Jérémie 33. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. Qui est une autre façon de dire, aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique n'a jamais réussi et ne réussira jamais d'empêcher le lever et le coucher du soleil, ainsi que le va et vient de la marée et le passage du temps et le changement des saisons. Et aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique peut empêcher que Dieu ne soit pas fidèle à son alliance. L'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec l'Église. Parce que Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il a promis l'arrivée de Jésus, Jésus est arrivé. Il a promis la mort de Jésus, Jésus est mort. Il a promis la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité! Il a promis le retour de Jésus un jour, Jésus reviendra. Il a promis notre résurrection un jour, nous allons être ressuscités ou au moins changés si nous sommes encore vivants à son retour. Il a promis une éternité de gloire en sa présence pour ses enfants. Nous allons avoir une éternité de gloire en sa présence. Il a promis de bâtir l'Église et il bâtit l'Église. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire et la résurrection est la preuve de cela. On sert un Dieu d'alliance. Quand il dit qu'il va bâtir l'Église, il va bâtir l'Église. C'est pour ça que je dis que vous êtes la preuve que Jésus est ressuscité. Vos vies transformées, votre témoignage, votre confiance et fidélité à travers la tempête, les tempêtes, sont la preuve que Jésus est ressuscité. Car cette expérience avec Jésus est répétée des millions et des millions de fois à travers le monde depuis des siècles. Avec des histoires et des témoignages très semblables. Peu importe où nous sommes dans le monde, peu importe où nous sommes, on rentre dans une église chrétienne puis les gens parlent d'une expérience avec Jésus, d'une vie changée qu'on a entendue dans la vidéo, d'une relation avec Christ et le désir de le suivre et l'adorer et le connaître. Ça, c'est le phénomène de l'Église. Entre dans une Église partout dans le monde et vous êtes chez vous. Moi, je sais, j'ai visité plus que 30 pays depuis 40 ans de ministère et j'ai visité des centaines et centaines d'églises. Ce n'est pas le même style d'église, ce n'est pas le même style de musique, ce n'est pas exactement pareil que l'église Nouvelle Vie, mais toujours un témoignage commun. On est chez nous, toujours un témoignage connu, partout dans le monde, peu importe ce qu'on est. Et le témoignage commun est Jésus est vivant. Jésus est vivant et Jésus transforme nos vies. Et nous avons le privilège de participer dans cette histoire. Son histoire devient notre histoire. L'histoire de l'Église qui croît et qui brille d'une génération à l'autre. Wow! Bonne main d'applaudissement pour le témoignage de l'Église partout dans le monde depuis plus que 2000 ans. Come on! Jésus est ressuscité, c'est partout le même dans le monde. Le même témoignage, la même histoire, les mêmes expériences, les mêmes témoignages. Nous savons pourquoi que nous croyons à la résurrection. Et si vous ne croyez pas, il faut que vous m'expliquiez ce qui a pris place il y a 2000 ans, ainsi que le lancement de l'Église et la transformation des millions de vies, les nôtres inclus. Pour citer N.T. Wright encore une fois, quand il parle de la résurrection, une fois que vous admettez que quelque chose de remarquable s'est produit avec ce corps ce matin-là, toutes les autres données s'expliquent facilement. Mais une fois que vous insistez pour dire que rien de si bizarre ne s'est passé, vous allez vers des hypothèses de plus en plus complexes et fantastiques. C'est pour ça que nous croyons que la résurrection est une croyance fondée historiquement. Elle est crédible, logique et rationnelle. Il y a le témoignage d'Anthony Flew. Je ne sais pas si vous connaissez Anthony Flew, c'est un athée renommé qui a changé son idée en 2004. Il était professeur d'université de Keele, Oxford, Aberdeen et Reading en Angleterre, un érudit. Il était le champion des athées pour plus que 50 ans. Il était l'athée le plus connu, vendu et renommé parmi les athées, mais il est devenu un théiste, un croyant en 2004. Et voici ce qu'il dit dans son livre « There is a God ». Mon voyage vers la découverte de la divinité a été un pèlerinage de raison. J'ai suivi les arguments là et ils me guidaient. C'est ainsi que j'ai été conduit à accepter l'existence d'un être auto-existant, immuable, immatériel, omnipotent et omniscient. Puis en plus, il ajoute, aujourd'hui, je dirais que la proclamation concernant la résurrection est plus impressionnante que n'importe quelle autre déclaration faite par toute autre religion. Il a passé d'un athée à un théiste, à un croyant, parce qu'il a suivi et par la suite cru à l'évidence. Et crois-moi, pour ces mêmes raisons, même ceux qui doutent la résurrection, ils ont des doutes par rapport à leurs doutes. Ils doutent leurs doutes. Grâce à la masse d'évidence prouvant que Jésus est ressuscité. Et le Seigneur ressuscité laisse une impression inoubliable sur une personne. Une impression que les disciples n'ont jamais oubliée et ils ont porté avec eux jusqu'à leur mort. L'impact de la résurrection de Jésus. Les disciples et les premiers témoins ont passé des douteux à des convaincus, des gens tristes à des gens joyeux, des gens craintifs à des gens courageux. Quelque chose est arrivé. Jésus est vivant. Il parle et il se présente à plusieurs. Ça crée un impact, un buzz, une révolution. Un parle à l'autre. Et non seulement qu'ils ont cru, mais ils ont réussi à convaincre des milliers qui n'ont même pas témoigné pour eux-mêmes parce que le Seigneur ressuscité touche leur cœur et transforme leur vie, comme qu'on a entendu sur la vidéo. Et tout cela se donne le lancement, et tout cela donne l'élan sur le lancement de l'Église, et fondé sur la croyance que Jésus est vivant, comme nous ici, 2000 ans plus tard, à la Prairie, qui sommes aussi convaincus de la résurrection de Jésus, et que Jésus n'est pas n'importe qui, il est qui dit qu'il est le Fils de Dieu, il a ressuscité comme promis, et il reviendra un jour comme promis. Bonne main d'applaudissement, ça c'est Jésus ressuscité, on est convaincus. Et c'est pour cette raison que nous croyons que la résurrection est le signe parmi tous les signes, confirmé par Jésus, en réponse à des gens qui lui demandent un autre signe, un autre miracle, une autre preuve qu'il est le Fils de Dieu, après tout ce qu'il avait déjà fait. Remarque, le passage est sur l'écran. Les pharisiens et les sadduciens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupirait profondément en son esprit, parce que ce n'était pas la première fois, un autre signe, une autre preuve. Puis Jésus soupire dans son esprit. Puis il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, qui est le miracle de la résurrection. Car une fois que Jésus est ressuscité, que voulons-nous de plus? Que pouvons-nous demander de plus? Comprenez, moi, je crois au miracle. Mais même si Dieu n'opérera plus aucun miracle pour moi pour le reste de mes jours, ma foi ne sera pas du tout ébranlée. Car Jésus est ressuscité, mon salut est garanti et mon avenir au ciel aussi. Je n'ai besoin de rien de plus parce que Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? Come on! Jésus est ressuscité. J'ai pas besoin de rien de plus! Parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus nécessaire de rechercher des preuves de plus. Ni des signes, ni des miracles, ni des manifestations prophétiques ou quoi que ce soit. Nous n'avons plus à chercher, questionner, douter. La résurrection est le sceau sur la véracité des Écritures et la crédibilité de Christ et la fidélité de Dieu à sa parole et ses promesses. Alors pour nous, la résurrection n'est pas rien qu'une croyance, mais elle est une source d'inspiration qui impacte notre vie au complet. Elle est une source d'encouragement, même dans les périodes les plus difficiles. Jaroslav Pelikan, historien, théologien, renommé, a dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, rien d'autre est important. Mais si Christ est ressuscité, rien d'autre est important. C'est bien dit, ça. Jésus est ressuscité. Je n'ai pas à m'inquiéter de rien. Jésus est vivant. La vie éternelle m'attend. La résurrection annonce la mort de la mort. Et en plus et en dernier, la résurrection est la garantie que tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Notre travail, notre dévouement, notre service, notre sacrifice, nos prières. N'est-ce pas ça que Paul nous enseigne dans son récit magnifique sur la résurrection en 1 Corinthiens chapitre 15, où l'apôtre Paul réfléchit sur le service, la vie et le service chrétien si Jésus n'est pas ressuscité. Puis là, il dit, si Christ n'est pas ressuscité. Notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés et perdus. Nous sommes les plus malheureux et misérables de tous les hommes parce qu'on fait tout ça pour rien. Et par la suite, il commence à demander des questions. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril et à chaque jour je suis exposé à la mort? Pourquoi j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse? Parle de la persécution. Quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Une mentalité fataliste et nihiliste. Une mentalité qui règne aujourd'hui. La vie sans raison, la vie sans valeur. Si Jésus n'est pas ressuscité, bien, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Il n'y a pas d'espérance. En autre mot, si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce que ça donne de prêcher, prier, travailler? Qu'est-ce que ça donne de souffrir, de sacrifier notre sommeil, notre argent, notre énergie, notre confort, même notre réputation parfois pour l'Évangile? C'est futile et inutile. On est misérable pour rien. Si Jésus n'est pas ressuscité, mais Jésus est ressuscité! Alors, si on est misérable, on est misérable pour une bonne cause. Mais vous savez ce que je veux dire. On comprend très bien l'apôtre Paul. Et dont la raison que Paul termine son écrit, puis j'invite les musiciens ici en arrière de moi tout de suite, dont la raison que Paul termine son écrit avec ceci. Il dit, après avoir demandé ces questions et demandé ces questions, si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que nous faisons est en vain, notre sacrifice. Il dit, tout ce que nous faisons, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Bien-aimé, ce n'est pas toujours facile, mais Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que Jésus est ressuscité, notre travail, nos prières, nos sacrifices, notre service et notre sanctification, ça veut dire tous nos efforts pour glorifier Dieu avec notre corps, notre sexualité, notre argent, notre temps et nos paroles, n'est pas en vain. Nos efforts, nos dons, nos combats et nos paroles ne sont pas en vain parce que Jésus est ressuscité. Comment, levons-nous tous ensemble. Une autre ovation debout pour le Seigneur ressuscité. Tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Tout ce que vous faites pour le Seigneur, tout ce que vous donnez, tout ce que vous sacrifiez, tout ce que vous dites, toutes vos prières, tous les efforts, rien n'est en vain. Tout ce que nous faisons à l'Église Nouvelle Vie avec les 10 multisites et d'autres à venir dans les années prochaines pour avancer la cause de Christ. Oui, c'est du travail. Oui, c'est l'effort. Oui, c'est des sacrifices. Mais ce n'est pas en vain. Parce que Jésus est ressuscité et nous sommes la preuve, la preuve. Pasteur Sophie m'a envoyé une questionnaire avant la réunion cette semaine. Quelques questions en préparation pour la réunion. Puis une des questions est, Pasteur Marc, quelle est la leçon à retenir? Ou qu'est-ce que vous aimeriez que les gens tirent de votre message? Puis moi, j'ai dit que non seulement ils soient convaincus de la crédibilité de la résurrection, mais qu'ils comprennent son importance suprême et surtout qu'ils soient capables de célébrer son impact extraordinaire. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles aujourd'hui, beaucoup de confusion, il y a beaucoup de tristesse, il y a du découragement, il y a le déprime, la dépression, mais nous avons toujours une raison pour célébrer avec une joie spontanée parce qu'on est encore émerveillé par la résurrection ensemble. Nous devons être des personnes d'une conviction, d'une compréhension, mais aussi d'une célébration. Alors, juste avant que les musiciens nous conduisent dans un chant de célébration, c'est le dimanche de Pâques, nous allons terminer avec une célébration. S'il y en a qui veulent taper leurs mains, s'il y en a qui veulent sauter un peu, c'est correct. S'il y en a qui...